Messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui, et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de Capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de Capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.
Elle joue sur sa guitare des airs du répertoire. Il joue au PMU des chevaux inconnus. Le voisin, le rappeur, il joue à se faire peur. Quant au voisin d'en bas, il joue les fiers à bras. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. Le concierge s'endette et joue les troubles faites. La vie lui joue des tours dans ses pokers d'amour. Le temps est orageux, la bise joue le jeu, mais souffler n'est pas joué, le temps va se fâcher. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. Le couple d'en dessous, les deux s'enrageons, jouent à s'aimer encore dans ce curieux décor. Leur petit est plus drôle, il joue son premier rôle. En parisant c'est joué, il joue guiché fermé. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. Plus à Réunion-Matou, nous on se joue de tout. On joue à la manie, on se la joue tranquille. On se mange les joues et les brunes d'Anjou. Sur un plumier, une joute d'oreiller. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, tout le monde en joue.
Dans les marais, si qu'on gueule dans le fracas, si que toujours on dit jamais, si qu'on saigne sur nos pansements, si qu'on tombe avant les échelles, si qu'on dérape sur les serments, si qu'on se ressource à l'eau de vaisselle, on ouvrira peut-être un bistrot, comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite. On ouvrira peut-être un bistrot pour kidnapper la fin de la fête. Puisqu'on veut faire du pain des miettes, qu'on n'a pas eu assez de sourires, qu'on s'est pas chopé Henriette, qu'on n'a pas peur d'avoir l'air pire, puisqu'on s'en fout d'être pas beau, puisqu'on a des croûtes aux genoux, puisqu'en haut c'est un peu trop haut, Est-ce qu'on veut plus?
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur part, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Cette année 2023 est le rappel des 50 ans du coup d'État militaire du Chili en 1973. Nous allons donc en parler dans cette émission Civis Pacem car les pacifistes peuvent tirer des leçons concernant les militaires et l'armée. Le 9 septembre 2023, l'Institut La Boétie a organisé un colloque à Paris pour rappeler justement ce coup d'État militaire au Chili. C'est le général Augusto Pinochet, chef de l'armée chilienne, qui prendra la tête du coup d'État et qui, après avoir soumis le pays à une sanglante dictature pendant plus de 20 ans, est mort dans son lit, comme d'ailleurs la plupart des généraux assassins. Et il est mort en 2006 sans jamais avoir été condamné pour les crimes commis par son régime. Les organisateurs de défense des droits humains ont compté 3 900 morts et environ 40 000 Chiliens victimes de la torture. Augusto Pinochet avait commandé le bombardement de la Moneda, siège du gouvernement à Santiago, dans lequel le président Salvador Allende se trouvait. Il a entraîné la mort de Salvador Allende, et Pinochet a mis fin à la période socialiste et démocratique de l'unité populaire. Je dis tout ça d'ailleurs pour les jeunes qui n'ont pas bien connu cette époque. Alors en 2003, 50 ans après ce coup d'État militaire, qui a été un traumatisme pour beaucoup de personnes de gauche dans le monde entier d'ailleurs, la plupart des militaires responsables des assassinats et des disparitions de Chiliens ne sont toujours pas condamnés. Il aura fallu attendre 50 ans pour que, le 29 août 2023, l'un des 7 militaires qui ont pratiqué la torture et le meurtre du chanteur Victor Jara dans le stade de Santiago soit reconnu coupable par la justice chilienne. Parmi ceux qui ont échappé à la justice, le général Herman Chacón, 85 ans, s'est donné la mort lorsque les policiers sont venus l'arrêter. Il a pris une arme à feu, qu'il a retournée contre lui, ce qui a provoqué sa mort, a expliqué à la presse le procureur Claudio Zuazo. Selon celui-ci, le général à la retraite avait participé à la sélection et à l'interrogatoire de 5000 politiques transférés dans le stade de Santiago. Le 28 août 2023, la veille du suicide de ce général, la Cour suprême avait confirmé les peines d'emprisonnement allant de 8 à 25 ans, qui avaient été donc prononcées bien sûr contre le général Chacón, mais aussi contre 6 autres anciens militaires. D'ailleurs, ces 7 anciens officiers, âgés de 73 à 85 ans, étaient libres jusqu'à cet arrêt définitif, et la plupart sont d'ailleurs toujours en liberté aujourd'hui. Alors, nous allons rendre hommage dans cette émission au chanteur pacifiste Victor Jara. Nous revenons maintenant au colloque Chili 1973, un coup d'état militaire contre l'état social 50 ans après, quelles leçons pour aujourd'hui. Ce colloque s'est tenu le 9 septembre 2023 à l'Institut Labo Essi à Paris, et nous commençons par écouter l'intervention de Martine Billard, ancienne députée et militante en France de la solidarité avec le Chili.
Contexte Amérique du Sud, donc je dis arrière-cour de l'impérialisme américain, donc la révolution cubaine en 59, la guérilla de Che Guevara en Bolivie, Che Guevara qui a assassiné le 9 octobre 1967. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a eu de très nombreux coups d'État, de très nombreuses dictatures en Amérique centrale et en Amérique latine. Pour la petite histoire, même si c'est après la dernière intervention militaire en tant que telle, l'invasion par les États-Unis date de 83 à la Grenade. On a tendance à oublier. Donc les États-Unis n'hésitent pas soit à intervenir en sous-main, soit à intervenir directement, y compris donc avec des interventions militaires en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Pour se concentrer plus sur l'époque donc qui nous intéresse, donc 64, c'est le 31 mars le coup d'État au Brésil, et donc ensuite une dictature militaire. 4 novembre, c'est en Bolivie de la même année. 72, c'est en Équateur. 27 juin 73, donc on est là aussi dans les 50 ans, c'est en Uruguay. 11 septembre 73, donc le Chili, ce sera ensuite le Pérou en 75 et le 24 mars 76, l'Argentine. Donc, vous voyez, c'est cet ensemble qu'il faut bien penser. Alors, le Chili, donc, il y a eu des élections le 4 septembre 70 et le système électoral chilien de l'époque fait que c'est un système à un tour. Et c'est Salvador Allende qui arrive en tête avec 36,6%. Devant Alessandri, le candidat conservateur, 34,9%, et Tomich, le candidat de la démocratie chrétienne, 27,8%. Dans ce cas, quand il n'y a pas de gagnant évident, c'est au Congrès de décider qui va être le nouveau président. En fait, dès avant l'élection, les États-Unis ont tout fait pour que Allende ne puisse pas arriver en tête de l'élection. Ils ont vraiment tout essayé en coordination avec la démocratie chrétienne notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que Salvador Allende avait déjà été candidat 3 fois précédemment à l'élection présidentielle, bon, qui n'avait pas gagné, et donc la droite et les États-Unis avaient très très peur, donc qu'il gagne en 70, donc ce qui s'est passé. Donc il est finalement, alors donc il y a des interventions, donc alors il y a plein de documents qui viennent de sortir. Non, puisque au bout de 50 ans, les archives aux États-Unis sont rendues publiques. C'est-à-dire, l'accès aux archives est plus simple visiblement aux États-Unis qu'en France. Hein, c'est jamais aussi évident en France. Bon, les archives viennent rendues publiques, qui démontrent toutes les interventions américaines par rapport pour empêcher bien avant l'élection de Salvador Allende, pour empêcher son élection, et dès qu'il arrive en tête, donc à l'élection du 4 septembre, pour empêcher qu'il soit finalement le candidat. Adoubé, si on peut dire, par le Congrès. Bon. Les manœuvres échouent, et donc Salvador Allende est proclamé président de la République le 24 octobre et prend ses fonctions le 2 novembre. Ce qu'il faut voir, c'est que, pour dire que dès, je vous ai dit, donc il est élu le 24 octobre, le 25 octobre, le général en chef de l'armée chilienne, le général Schneider, est assassiné par l'extrême droite chilienne, parce que il avait refusé justement d'intervenir pour empêcher l'arrivée d'Allende au pouvoir. Donc on est vraiment déjà dès le début, avant même que Salvador Allende commence son mandat de président, il y a déjà des interventions d'un côté des États-Unis, de côté de la droite, de l'extrême droite au Chili.
El derecho de vivir. Thank you.
que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
C'était un 11 septembre 1973 et les militaires ont fait leur office. Tous les militaires ne font pas ça, certes. Et là, ils l'ont fait, ils ont mis de l'ordre dans le jardin civil. Ils ont entassé des hommes, des femmes, dans des prisons, dans des restaurants, dans des hôtels, dans des stades, dans des gymnases. Il n'y avait plus de lieu pour y entasser la chair humaine promise à la mort. Et là, un soldat reconnu, un poète. Ce poète a terminé sa vie parce qu'un soldat l'avait reconnu au milieu de la foule. Ce poète avait écrit « Je me souviens de toi, Amanda, quand tu descendais la rue mouillée, pendant les 5 minutes de pause de l'usine pour aller retrouver ton amoureux, Manuel. » Manuel qui n'avait jamais rien fait de mal et qui est parti à la montagne en 5 minutes a explosé. Sonne la sirène du retour au travail. Beaucoup ne revinrent pas, Manuel non plus. Je me souviens de toi, Amanda. Je me souviens de toi, Victor Jara.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Marcho a la sierra, que nunca hizo daño, que marcho a la sierra, y en 5 minutos quedo destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Si Vis Pacem sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre 2 chansons de Victor Jara. La première, chantée par l'auteur, est intitulée « Le droit de vivre en paix ». Et la deuxième, interprétée par notre ami Serge Ujeruyo, est intitulée « Je me souviens de toi, Amanda ». De nombreux chanteurs ont rendu hommage à Victor Jara après son assassinat par les militaires chiliens du coup d'État. C'est le cas dans plusieurs pays et en particulier en France. Martine Billard, ancienne députée et militante en France de la solidarité avec le Chili, explique au cours du colloque qui s'est tenu le 9 septembre 2023 à l'Institut de la Boétie à Paris les raisons de cette résonance en France.
Pourquoi ce qui s'est passé au Chili a eu une telle résonance en France? Parce que vous avez vu, je vous ai donné tous les autres coups d'État. On a un peu parlé de l'Uruguay en juin, mais en dehors des milieux très militants qui s'intéressent à l'Amérique latine, on en a quand même très peu parlé. On parlera peut-être du coup d'État en 76, aux 50 ans de 76, j'en sais rien. Mais vous voyez que les 50 ans du coup d'État de Pinochet, on en parlera dans tous les pays, pas seulement au Chili. Alors ce qu'il faut voir, c'est pourquoi cette résonance particulière. Bon, d'abord, le Chili est un pays de lutte. Il y a eu des luttes ouvrières tout au long du XXe siècle, très nombreuses luttes ouvrières. Et puis, il a une structuration politique qui est facile à comprendre pour des Français. Il y a un parti socialiste, il y a un parti radical, qui est d'ailleurs le parti membre de l'Internationale socialiste. Le Parti socialiste chilien n'est pas membre de l'Internationale socialiste à l'époque, c'est un parti socialiste marxiste. Il y a un parti communiste. Donc vous voyez, déjà, rien que les trois, déjà, on a les correspondances en France. Il y a un parti qui s'appelle le MAPU, le Mouvement d'Action Populaire Unitaire, qui est au départ une scission de la démocratie chrétienne, une scission à gauche, qui en France a comme correspondant, alors pour les plus jeunes ça va pas parler, pour les plus vieux ça parle, un parti qui s'appelait le PSU, Parti Socialiste Unitaire. Bon, et il y a un groupe d'extrême gauche qui s'appelle le MIR, Mouvement de la Gauche Révolutionnaire, qui évidemment a en France comme correspondant les groupes d'extrême gauche, quoi. Donc vous voyez, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile, par exemple, que si vous essayez de comprendre l'Argentine avec le mouvement péroniste et ainsi de suite, quoi. Ça n'a rien à voir. Bon, vous avez, non mais ça joue dans le fait que des gens puissent, du coup, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Hein, c'est que là, c'est facile. Il y a en plus, bon, un syndicat très puissant qui est la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs. Bon, donc tout ça est facile. Donc l'arrivée de Allende, c'est avec un programme qui est un programme d'une voie pacifique au socialisme, dans une alliance, donc l'Unité Populaire, qui regroupe donc PS, Parti Radical et PC. Et c'est d'ailleurs la même époque, en France, en 72, il y a ce qui s'appelait le programme commun, qui regroupe le Parti Socialiste, le Parti Radical de gauche et le Parti Communiste. Donc vous voyez, ça, bon, alors c'est pas un hasard non plus si ça s'est fait, c'est en 72, donc 2 ans déjà après l'arrivée d'Allende au pouvoir, bon, parce que toute la gauche française a les yeux tournés vers ce qui se passe au Chili. C'est la première fois qu'un président arrive au pouvoir sur la base d'élections avec un programme qui est un programme marxiste, disons. Bon, donc en fait, qui est un programme de gauche quand même très significatif. Donc, et affirmant sa volonté d'un passage au socialisme par une voie pacifique. Alors le programme de l'UP, c'est pareil, je ne vais pas développer, Franck va beaucoup développer, mais c'est la nationalisation du cuivre, ce qui a beaucoup marqué, avec une société qui s'appelait Codelco, qui existe toujours, même si les nouvelles mines de cuivre sont privées. Bon. Et avec un élément très intéressant, je me permets, je ne sais pas si Franck en reparlera, mais je me permets quand même de souligner, qui est que, bon, le gouvernement d'Allende ne dit pas qu'il va nationaliser sans... Non, il dit qu'ils vont nationaliser avec indemnisation. Mais, pour calculer l'indemnisation, il calcule quels ont été les bénéfices excessifs qui ont été faits par les entreprises privées, donc par des multinationales, dont des multinationales américaines. Et donc, quand ils font le calcul valeur de l'entreprise moins bénéfice excessif, finalement, ce sont les multinationales qui doivent de l'argent au Chili. Et vous voyez, c'est intéressant comme réflexion sur les problèmes des nationalisations, hein, d'intégrer justement les... Voilà. Mais pour vous donner l'ambiance, je veux dire, Allende, par exemple, dans son discours de victoire, qui est, je crois, à l'Université du Chili, il dit « Nous avons triomphé pour vaincre définitivement l'exploitation impérialiste, en finir avec les monopoles. » Donc vous imaginez pas François Hollande dire ça, par exemple. Hein, bon. Alors, donc, pendant toute cette expérience de l'unité populaire, il y a beaucoup de délégations qui partent de France vers le Chili. Des délégations socialistes, des délégations communistes, l'extrême-gauche, enfin, tout le monde y va. Hein. Bon. Donc ça joue aussi sur les échanges, et ça jouera bien évidemment après. Voilà. Alors, donc vous avez un gouvernement d'unité populaire. Le MIR ne participe pas au gouvernement d'unité populaire, mais le soutient. Hein. Il le soutient depuis l'extérieur. Mais... Disons qu'à l'époque, par exemple, dans les débats sur l'extrême-gauche en France, parce que ben, c'est de ma génération, c'était sur « on déborde hein ». Donc on soutient, mais on déborde en même temps, c'est-à-dire on pousse. Et en fait, le débat, qu'il soit le débat au Chili à l'époque, ou le débat qu'on avait dans la solidarité, j'imagine pas qu'en France, dans plein de pays, c'était un débat donc sur la voie pacifique. Est-ce qu'on peut prendre le pouvoir et développer le socialisme par une voie pacifique? Et jusqu'où on va dans l'affrontement avec la bourgeoisie? Et il y avait donc, par exemple, le Parti communiste chilien, résumé ça par « il faut d'abord consolider avant d'avancer ». On consolide chaque acquis avant de continuer à avancer. Et le MIR disait « il faut avancer pour consolider ». Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, et ça a donné pas mal des tensions, bien évidemment, mais aussi des batailles politiques. Mais pareil, Franck va développer. Alors, on a entendu à l'époque, on entend encore, y compris dans la droite française, mais y compris quelquefois d'ailleurs dans la gauche française, mais évidemment dans la droite chilienne, et ça revient en ce moment au Chili, à l'occasion des 50 ans, mais pas uniquement, qui sur le thème, le coup d'État, en fait, c'est la faute de la politique de l'unité populaire et de la faute de Allende. S'ils n'avaient pas fait cette politique, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Bon, sauf que, et les documents déclassés, là, ces dernières semaines, hein, c'est depuis août, viennent montrer que ça n'a rien à voir, puisque les États-Unis avaient prévu, dès avant la victoire d'Allende, d'intervenir pour empêcher sa victoire. Donc c'était bien avant qu'ils mettent en place quelque politique que ce soit. Donc c'est pas la politique d'Allende, la politique du gouvernement d'unité populaire qui ont provoqué le coup d'État. Bon, et c'est, bon, il y en a d'autres qui disent, bon, non, mais c'est la faute du MIR qui, en radicalisant les luttes sous l'unité populaire, est responsable de, bon, ouais. Pareil, non, je veux dire, dès le début, c'était prévu, il ne voulait pas. Kissinger, qui était un des personnages importants de l'époque, donc le président américain à l'époque, c'est Richard Nixon, hein, avait résumé en disant, il n'y a aucune raison pour les États-Unis de rester les bras croisés et de laisser le Chili devenir communiste simplement à cause de la stupidité de son propre peuple. Vous voyez, là, bon. Et donc, il avait résumé ça sur la solution, c'est de faire hurler l'économie. C'est très intéressant. Pareil, là, je vais pas développer. C'est pareil, c'est Franck qui va le faire. Mais très intéressant parce que rappelez-vous des exemples quand même pas si lointains. Comment, finalement, l'Union européenne a empêché la Grèce, hein, de mettre en œuvre un programme plus radical, ben, en l'asphyxiant économiquement. Hein. Donc vous voyez, et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans pas mal de pays, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement progressiste, bon, on voit Cuba avec le blocus, pardon. Bon, on voit le Venezuela aussi, pareil, mais on voit même la Bolivie, par exemple, aussi, où qui a eu beaucoup de difficultés parce que les États-Unis, par exemple, dans le gouvernement précédent d'Evo Morales, avaient coupé les importations de textiles venant de la Bolivie pour justement asphyxier l'économie bolivienne et ainsi de suite. Donc c'est une arme qui a été énormément utilisée au Chili, mais qui est une arme finalement que les capitalistes ont conservé en mémoire comme façon d'utiliser, d'empêcher des processus progressistes. On n'est même pas dans des processus révolutionnaires, des processus progressistes. Alors, le coup d'État, donc, le 11 septembre, démarre donc à Valparaiso par le soulèvement de la marine, hein, qui, en fait, dans les jours et les semaines précédentes, a liquidé, c'est vraiment les marins, qui soutenaient l'unité populaire, donc ils ont expurgé les troupes de la marine des soutiens à l'unité populaire. Bon, et donc c'est eux qui sont la pointe du coup d'État le 11 septembre. Bon. Évidemment, ce qui a marqué le monde, c'est le bombardement de la Moneda, parce que l'image a circulé partout. Hein. Et donc ça a aussi joué sur le fait qu'il y a eu une telle émotion partout et a aidé malheureusement à la mobilisation de solidarité, quoi. En France, c'est le gouvernement Pompidou. Pompidou a reconnu très rapidement la junte militaire. Mais sur place, il y avait un ambassadeur qui s'appelait Pierre de Menton, qui était un gaulliste. Il n'est pas du tout un révolutionnaire ni rien du tout. Pierre de Menton et sa femme Françoise ont ouvert l'ambassade pour permettre donc aux militants politiques de se réfugier dans l'ambassade et ensuite donc de sortir en exil. Et je crois que bon, Pierre de Menton est décédé, je crois que Françoise aussi, là, oui, Françoise aussi. Bon, mais je crois qu'il faut vraiment rendre hommage parce que c'est parce qu'il y a eu des ambassadeurs courageux comme ça dans un certain nombre d'ambassades, il n'y a pas eu que l'ambassade de France, qu'un certain nombre de militants politiques ont pu effectivement être sauvés et pouvoir sortir ensuite à l'exil. Il faut se rappeler quand même que si on fait le bilan des victimes de la dictature, il y a 1469 disparus, dont 75 mineurs, et on a retrouvé les corps de seulement 307 d'entre eux. Donc, à 50 ans du coup d'État, on ne sait toujours pas où sont un certain nombre de disparus. Il y a eu 3200 exécutés. Et pareil, dans certains, on n'a pas retrouvé les corps. 40 000 personnes torturées. Bon, les disparitions ont continué jusqu'au milieu des années 80, hein, puisque, par exemple, Sergio Ruiz Lasso a été disparu en 84, si mes souvenirs sont bons. Là, donc, vous voyez, c'est très tard le système des disparitions a continué à être utilisé pour exterminer la militance un peu radicale et pour faire peur aussi à tous ceux qui auraient pu se mobiliser.
Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait apporté une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche à trancher. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara tomba, tout son sang giclait, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger, il piétina Victor Jara, chante, dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité, l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73.
C'est encore Serge Hugues Rouillot qui interprétait cette chanson émouvante de Julios Pocarne intitulée « Lettre à Kissinger ». Martine Billard rappelle aussi l'assassinat du chanteur Victor Jara.
Alors vous avez vu qu'il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu enfin la condamnation des assassins du chanteur très connu Victor Jara. Bon. Je voulais rappeler qu'il y a parmi les disparus, il y a 4 franco-chiliens. Georges Oclin, médecin, qui était au PC, 27 ans, qui est resté dans la Moneda avec Salvador Allende jusqu'à la fin et qui est parmi les personnes arrêtées et dont on n'a jamais retrouvé, dont le corps a été retrouvé 38 ans plus tard. Étienne Pell, PS, c'était un ex-curé, qui a été arrêté le 19 septembre 73 à Temuco et qui est porté disparu. Alphonse Chanfraud, du MIR, 24 ans, arrêté le 30-07 1974, qui est aussi toujours porté disparu, mais dont un fils est aujourd'hui a été un dirigeant étudiant, est un leader politique. Jean-Yves Claudet, du MIR aussi, séquestré le 1er octobre 75 à Buenos Aires, dans le cadre du plan Condor, dont vous avez dû entendre parler, qui était le plan entre toutes ces dictatures du cône sud, qui sont organisées entre elles et qui faisaient disparaître les militants dans chacun de leurs pays. C'est-à-dire, si vous avez des Chiliens réfugiés en Uruguay, ils ont été enlevés et portés disparus de la même manière en Argentine, ainsi de suite. Donc c'est un plan organisé pour exterminer les militants politiques dans tous les pays du cône sud. Alors, ces quatre franco-chiliens donc portés disparus, il y a eu un procès en France en 2010, ce procès qui a permis de condamner y compris Pinochet. Parmi les autres Français quand même assassinés au Chili, il y a le prêtre français André Jardin, qui a été assassiné en 84 dans la Población de la Victoria au moment de ce qu'on appelait les protestes. Il y a eu à peu près 9000 réfugiés politiques en France, et je voudrais souligner et saluer le rôle que la CIMADE a joué, et notamment un de ses responsables à l'époque, André Jacques, hein, puisque ils ont beaucoup aidé à l'accueil partout et de tous les réfugiés politiques. Alors, la solidarité, donc je vous dis, ce qui a beaucoup marqué, bon, avec le bombardement, les photos du bombardement, bon, ça a quand même créé un choc. Bon, et très vite se sont constitués des comités de solidarité en France. Alors, et on a retrouvé la fracture du débat sur la solidarité. C'est-à-dire, d'un côté, le Parti socialiste organisait la solidarité, notamment, bon, le Parti communiste aussi. Les deux, notamment dans les municipalités où ils dirigeaient les communes, ont organisé l'accueil, hein, de Chiliens. Bon, beaucoup, par exemple, Massy-Palaiseau, Fontenay-sous-Bois, bon, d'autres communes. Donc ça, oui. Et puis, il y a eu, bon, en lien plutôt avec le MIR et le MAPU, ce qui s'appelait le Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Donc vous voyez, tout de suite, on voit la différence, on voit comment le débat politique se répercute dans l'organisation de la solidarité. Bon, comité de soutien donc a été créé par plusieurs personnes, dont Alain Jox, Gus Macia et François Gèze. François Gèze, donc, peut-être certains ont vu, qui vient de décéder, donc, qui était un éditeur très fameux, et c'est tous les trois, donc, ont lancé ce comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Il y a eu plus de 300 comités dans les lycées, dans les facs, dans les quartiers, mais aussi dans les entreprises. Hein, ça, c'est la solidarité chilienne en France a été une des plus puissantes, parce qu'elle était relayée, donc, par beaucoup de forces politiques. Et puis, il y avait en plus des chanteurs qui étaient ici, les Quilapayún, ceux qui ont créé la chanson El Pueblo Unido. Bon, parce qu'ils étaient en tournée, en fait. Et ils sont passés le 9 septembre 73, ils étaient sur la scène de la fête de l'UMA. Et donc, évidemment, ils n'ont pas pu repartir. Et donc, du coup, ils ont organisé des tournées partout pour organiser, pour aider à la solidarité. De la même manière, Inti Illimani, qui était en tournée en Italie, qui, du coup, aussi a organisé. Et puis, il y avait Angel Parra, qui était le fils de la grande chanteuse Parra, qui était aussi en France. Donc, il y a eu beaucoup, ça a beaucoup aidé à l'organisation de la solidarité. Les personnes qui ont aidé à la création de ces comités de soutien à l'extrémisme, il faut savoir que par exemple, il y a eu d'énormes manifestations, hein, partout en France, bon, dans Paris, mais on est même entré dans l'ambassade. Bon, il y a eu par exemple des dockers qui ont refusé de décharger des navires chiliens. Il y a eu dans un hôtel, parce qu'à un moment donné, il y a une délégation de la junte un peu plus tard qui est venue à Paris. Le personnel de l'hôtel a refusé de s'occuper des membres de la junte qui étaient là. Donc il y a eu beaucoup de gestes de solidarité, parce que ça résonnait quand même beaucoup par rapport, donc, je vous dis, la similitude du cadre politique qui faisait que c'était très entendable. Je voudrais quand même dire, dans les personnes qui ont compté dans l'orientation de la solidarité en France, Danielle Mitterrand, c'était la femme du président, et qui a été, à partir de 81, et qui a énormément aidé à la solidarité, je veux dire, tous les camarades chiliens le savent, et non seulement, bon, donc Daniel, et camarade qui travaillait à ses côtés, Anne Lamouche qui est aussi décédée, mais je crois que tous les camarades auront une pensée émue pour Anne, parce qu'elle s'est vraiment démultipliée pour aider à chaque fois qu'on avait besoin d'elle. Je pense aussi à Louis Joinet, qui était conseiller politique auprès de François Mitterrand, bon, et qui a aussi beaucoup aidé des fois. Bon, et puis je pense, mais je sais pas si elle aimerait que je cite son nom, mais en tous les cas une camarade qui est dans la salle, qui nous a beaucoup aidé à l'OFPRA aussi pour aider les camarades chiliens qui arrivaient. Donc voilà, donc c'est, faut voir qu'il y a eu toute cette solidarité et très très importante pendant des années. Ensuite, il y a eu un creux. Comme souvent, hélas. Et puis, la solidarité est quand même repartie. Donc, c'est ce qui s'est passé au Chili. L'expérience de l'unité populaire a beaucoup marqué toute la gauche française. La gauche, l'extrême gauche française. Hein, nous sommes toute une génération à avoir été très, très mobilisés, très marqués par ça. Et je crois que c'est pour ça que c'est très intéressant à l'occasion de ces 50 ans, de reparler du bilan et des leçons dont on peut en tirer, parce que on ne peut pas être militant politique sans tirer des leçons de ce qui a pu se faire à un moment ou à un autre, et de voir en quoi ça nous est utile, et de voir aussi comment la solidarité internationaliste est utile. Il y avait un rassemblement c'était mardi soir, je crois. C'était mardi soir devant devant l'ambassade avec le DAL, co-organisé par le France Amérique Latine, l'association des ex-prisonniers politiques en France chilien, et le DAL, parce que il y a aujourd'hui au Chili une loi qui vient d'être votée, qui est une loi qui ressemble à la loi qui a été votée en France contre les occupations illégales de terrains, d'usines, de logements et ainsi de suite. Donc cette alors la loi chilienne est encore pire puisqu'elle autorise les propriétaires à se faire justice eux-mêmes. Donc, nous espérons tous que le président Gabriel Boric, qui a un droit de veto selon la constitution chilienne, va utiliser son droit de veto pour empêcher que cette loi soit établie. La solidarité, il faut donc, il y a eu un journal, il y a eu donc des centaines de meetings, il y a eu bon des grandes collectes et l'argent a été envoyé au Chili. Bon, et je vous dis donc la solidarité a continué ensuite avec toujours ce soutien depuis la France aux luttes au Chili, notamment lorsque les luttes ont repris au début des années 80, avec donc ce qui s'appelait les protestas, bon, où il y a eu de la solidarité depuis la France pour envoyer des moyens pour aider à cette solidarité, bon, dans les poblaciones, donc les quartiers populaires des villes chiliennes, de manière à aider à la solidarité. Et il y a eu continué à avoir des Chiliens qui se sont réfugiés, qu'ont dû se réfugier en France parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était leur vie qui était en danger, continuer à se réfugier dans les années 80 et jusqu'à la chute de la dictature.
Victor Jara, si je vous en parle, en fait, c'est parce que bon, il a été nommé ambassadeur culturel du Chili par Salvador Allende. Et donc, comme il était très connu, pas juste au Chili, mais partout où on parle espagnol et même au-delà de ces frontières-là, c'est bien naturellement que quand on a fait le coup d'État, le 11 septembre 1973, on est allé chercher Victor Jara et on l'a amené au stade du Chili, à Santiago. Et la chanson que je vais vous interpréter, en fait, m'a été inspirée par le texte de quelqu'un qui était là, dans le stade du Chili, dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Victor Jara et qui raconte ce qui s'est passé pour Victor dans les jours qui ont suivi, ce qui s'est passé pour bon nombre des 6000 autres prisonniers qui avaient été entassés dans le stade, qui avait été transformé en prison pour l'occasion, et pourquoi, aujourd'hui, le stade du Chili s'appelle le stade Victor Jara. Depuis qu'on laisse tomber la nuit sur nos cauchemars d'insomniaques, on trouve toujours des liturgies, des Superman paradisiaques. Mais on parle trop rarement de ceux qui ont su faire de leur vivant trembler les riches, trembler les dieux, que sanctifie l'histoire des grands. Et quand ta voix de Santiago me chante les fantômes du Chili, c'est dans mes veines et dans mes os que je sens résonner leur vie. C'est pas une fable, c'est pas un conte, c'est une histoire pour mes enfants, afin qu'ils sachent qu'un vrai héros, ça peut n'avoir comme arme qu'un tour de chant. Un 11 septembre que l'oncle Sam a oublié depuis longtemps, on t'a menotté pour un drame, blindé contre les sentiments. Il y a les gens, les ordinaires, et tous les rêves qu'ils ont dans le cœur. Puis viennent l'argent, les militaires, et tout ce qu'ils ont de dictateur. C'est pas une fable, c'est pas un conte, c'est une histoire pour mes enfants, afin qu'ils sachent qu'un vrai héros, ça peut n'avoir comme arme qu'un tour de chien. Ils t'ont installé dans un stade, comme si c'était pour un spectacle. Devant tes 6000 camarades, le souffle court, prêt au massacre. On n'écrit pas tous bien notre vie, et trop rarement devant la mort, un refrain fut si bien choisi, comme tu as su le faire, Victor. On a amené Victor au milieu du stade, puis on lui ordonnait de mettre ses mains sur une table. Dans celle de l'officier, il y avait une hache. D'un coup sec, il lui a coupé les doigts de la main gauche, puis d'un autre coup, ceux de la main droite. Le corps de Victor s'est écroulé. Le hurlement des 6000 prisonniers a retenti dans le stade. L'officier s'est précipité sur lui, puis il a crié « Vas-y, chante maintenant pour ta puta madre !» Et puis il a continué à le rouer de coups. Tout d'un coup, Victor s'est levé, puis il s'est dirigé vers les gradins. Puis on l'a entendu dire à la foule « On va faire plaisir au commandante !» Levant ses mains, dégoulinante de sang, d'une voix brisée, il s'est mis à chanter l'hymne de l'unité populaire de Salvador Allende que tout le monde a repris en cœur. Mais c'en était trop pour les militaires. On a tiré une rafale et puis Victor s'est plié en avant. D'autres rafales se sont fait entendre, destinées, celles-là, à ceux qui avaient chanté avec lui. Il y a eu comme un écroulement de corps, tombant, criblé de balles. Les cris des blessés étaient épouvantables, mais Victor les entendait plus, lui. C'est pas une fable, c'est pas un conte, c'est une histoire pour mes enfants, afin qu'ils sachent qu'un vrai héros, ça peut n'avoir comme arme qu'un tour de chant.
Le chanteur québécois Jean-François Lessard chantait la fin tragique de Victor. Alors vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous revenons maintenant au colloque Chili 1973, un coup d'état militaire contre l'état social, 50 ans après, quelles leçons pour aujourd'hui, colloque qui s'est tenu le 9 septembre 2023 à l'Institut de la Boétie à Paris. Et nous écoutons maintenant l'historien Franck Godichaud, spécialiste du Chili.
On est effectivement à 50 ans du coup d'État. C'est un coup d'État qui résonne encore, hein. On peut le voir aujourd'hui, la salle est pleine, mais qui résonne encore très fortement aussi au Chili. Si vous suivez un petit peu, il y a actuellement des gros débats sur comment interpréter l'unité populaire, ces 1000 jours qui ont transformé le monde, le coup d'État, mais aussi la dictature de 16-17 ans qui a suivi, qui a été une dictature de terrorisme d'État, de néolibéralisme et de répression contre-révolutionnaire. Le Chili d'aujourd'hui, de 2023, se débat encore face à cette mémoire-là, avec des débats qui sont parfois très polarisés. Et vous le savez aussi peut-être, le pinochetisme n'est pas mort, puisque l'extrême droite chilienne est en pleine reconstitution. Et a des espaces désormais institutionnels très forts. Elle est à la tête, par exemple, du Conseil constitutionnel qui est en train de réécrire la Constitution au Chili. Donc, en fait, revenir sur le Chili de ces années-là, c'est pas une sorte de nostalgie, de commémoration nostalgique. C'est pas non plus un exercice purement qui serait, je sais pas, historiographique, académique. Je pense que si on est ici aujourd'hui, c'est pour comme le disait Martine, voir quelles leçons on peut tirer de ces 1000 jours-là, pas pour donner des leçons, hein, pas du tout, mais pour voir nous, en tant que citoyens, militants, militantes, est-ce qu'on peut en tirer des fils pour penser l'émancipation au XXIe siècle, avec des questions qui sont très épineuses, qu'on peut pas trancher si facilement, qui sont tranchées par les luttes, par la mobilisation, par la politique. Mais en tout cas, il y a une certaine, on pourrait dire, une grande modernité dans l'expérience chilienne de cette tentative de transformation socialiste qui pose la question de l'État, du rôle de l'État dans une transition, d'une rupture révolutionnaire, qui pose la question de la violence politique, qui pose la question des mobilisations par en bas, du pouvoir populaire, enfin plein de questions qui traversent en fait l'histoire du mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, mais là de manière peut-être plus actuelle et qui résonne à mon avis très fortement encore aujourd'hui. Moi je suis aussi militant, je suis membre de la revue Contretemps, de l'association de solidarité internationale France-Amérique latine, et donc c'est de là que je parle, hein. Je parle pas en tant qu'historien universitaire, je pense qu'il faut un peu se mouiller, et les universités doivent se mouiller dans le débat politique et social, et c'est pour ça que je suis content d'être ici aujourd'hui à la Boétie. Alors, le challenge, c'est en 20 minutes, vous parler de 1000 jours que j'étudie et travaille depuis à peu près 22 ans. Donc, je vais essayer de le faire. Mais en fait, non, je vais donner quelques éléments et je vais m'appuyer en fait sur des images. Parce que, en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, là, le petit bouquin qu'on vient de sortir qui s'appelle « Découvrir la révolution chilienne », c'était revenir, en fait... pas sur le coup d'État, enfin aussi sur le coup d'État, mais pas sur la défaite, aussi sur la défaite, mais revenir avant tout sur cette grande fête révolutionnaire qu'il y a eu pendant 1000 jours, cette mobilisation sociale par en bas, cette capacité à l'auto-organisation, à débattre au sein de la gauche, à poser les questions au sein des marxistes, des chrétiens révolutionnaires, du mouvement social, c'est ça qui est vraiment passionnant et sur lequel il faut revenir. Évidemment, la figure d'Allende, elle reste centrale. Allende, à un moment donné, il vient cristalliser cette coalition entre le Parti communiste, le Parti socialiste, deux grands partis qui sont vraiment ancrés dans le mouvement ouvrier, hein, qui ont une insertion sociale très importante, qui se revendiquent du marxisme chacun à leur manière, dans lequel aussi il y a des chrétiens révolutionnaires qui ont rompu avec la démocratie chrétienne, qui est plus ou moins au centre de l'échiquier politique à ce moment-là, et qui proposent une perspective de voie pacifique aux non-armés, légale au socialisme. Comme l'a dit Martine, en pleine guerre froide, ils disent on va pas choisir la voie armée cubaine, on pense pas que le modèle de l'URSS soit le bon, et en même temps, on veut rompre avec l'impérialisme états-unien, évidemment, et commencer en tout cas un processus de démocratisation radicale qui pose la question à moyen terme du socialisme. Ceci dans un contexte qu'Allende et sa coalition voulaient de participation électorale, suffrage universel, respect des institutions. Ce qui en soi, évidemment, est une rupture avec une partie de la pensée révolutionnaire et pose la question de jusqu'où l'État tel qu'il est, l'État bourgeois, pouvait accepter ou encaisser ou être un instrument de cette transition. Et ça a été un des points de débat très forts dans tout l'espace des gauches du Parti communiste jusqu'au MIR. Si je fais ça, ça marche ?
Ouais.
Alors, quelques images. Il y a beaucoup de photographies de l'époque que je trouve, moi, magnifiques, qui montrent, en fait, la joie des classes populaires, l'enthousiasme. Allende, effectivement, il est élu en étant minoritaire. Donc, d'entrée, il a une difficulté. Il propose une voie légale au socialisme, en respectant les institutions, mais il a 36,6% des voix. On est dans un cadre d'une élection à un seul tour, et c'est le Congrès qui vient valider en général la première majorité, qui était celle à l'époque d'Allende. Mais on a trois candidats, la droite conservatrice, le centre démocrate chrétien et la proposition d'Allende. Donc il est minoritaire au Parlement et il est élu aussi dans une position minoritaire ou de majorité relative. Et évidemment, d'entrée, c'est une difficulté pour son projet, puisqu'il veut essayer, à partir de l'État, à partir des institutions, commencer à transformer la société, aussi en s'appuyant sur les mobilisations populaires. D'autre part, il a des adversaires qui ont été mentionnés par Martine, qui sont qu'il faut surtout pas mettre de côté. À mon avis, il y a une chose à faire, c'est pas résumer l'issue dramatique de l'unité populaire par le fait qu'il y avait une attaque impérialiste. On peut pas, c'est pas la seule raison, mais quand même, la position états-unienne, l'interventionnisme états-unien a joué un rôle clé dans le coup d'État et dans la déstabilisation permanente de cette expérience de gauche. Grande partie de la gauche avait d'ailleurs conscience de ce qui était en jeu et de s'affronter à des adversaires très puissants. Et la question du cuivre, évidemment, était au cœur de cette bataille, puisque le fait de nationaliser le cuivre, c'était enlever des mains des États-Unis, des grandes multinationales, une richesse fondamentale. 25% du cuivre mondial est au Chili, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, on a un adversaire international qui va immédiatement mettre en branle une déstabilisation qui aura aussi des conséquences tout à fait importantes, même si j'insiste, de mon point de vue, il faut voir aussi ce qui se passe dans la société chilienne. Évidemment, les dominants, l'oligarchie, les classes dominantes ont tout fait pour empêcher l'avancée des réformes et la perspective de rupture avec le capitalisme de cette époque-là. Le programme d'Allende, donc, on peut le caractériser. À l'époque, il y a un débat sur comment le caractériser, d'ailleurs. En tout cas, c'est l'idée d'une démocratisation radicale, avec un contenu anti-impérialiste très clair. L'idée, voilà, il faut nationaliser le cuivre, nationaliser certaines grandes entreprises, tout en laissant le marché largement fonctionner, hein, et être majoritaire, d'ailleurs. Une réforme agraire qui serait une des plus radicales de l'histoire du XXe siècle en Amérique latine. On l'oublie très souvent, mais l'une des réformes les plus radicales d'Allende, c'est la réforme agraire. En 2 ans, l'unité populaire liquide, mais vraiment liquide, la grande propriété foncière au Chili. Donc avec le Mexique et Cuba, c'est une des réformes agraires les plus radicales de l'époque, et ça va évidemment aussi créer des ennemis très forts à Allende. Et plus largement, commencer à mettre en place un certain pilotage de l'économie, en tout cas une tentative, tout à l'heure on en parlera dans la deuxième table. Il y a un débat sur l'ampleur de ces réformes. Pour le MIR, par exemple, le mouvement de la gauche révolutionnaire, Allende a une perspective démocratique, anti-impérialiste, mais qui reste dans le cadre du réformisme légal, bourgeois. Pour le Parti communiste, au contraire, la seule manière d'avancer, c'est à partir des institutions, commencer de manière graduelle mais décidée à transformer la société en faisant une par une toutes ces réformes qui, effectivement, augmentation des salaires, co-gestion des entreprises nationalisées, la redistribution des terres, etc. Dans un premier temps, il y a vraiment une période euphorique de fête révolutionnaire qui marque cette première année et qui fait penser que, finalement, oui, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible de commencer à avancer vers le socialisme sans affronter directement et par les armes l'État et son armée. Peut-être que le moment clé de cette première phase héroïque, on pourrait dire, ou de victoire politique, c'est celle de la nationalisation du cuivre. Puisque Allende arrache la nationalisation du cuivre et elle l'arrache aussi au Congrès qui vote à l'unanimité, la droite y compris, cette nationalisation, comme l'a dit Martine, qui se fera sans indemnité finalement, puisque les juristes intelligemment d'Allende vont dire non, c'est vous qui nous devez de l'argent, vous avez pas payé d'impôts, vous avez saccagé le pays pendant des décennies. Vous avez cette image un peu, en gros, que le Chili devient, passe à l'âge adulte. Il se met des pantalons longs et il va acquérir une seconde souveraineté après des années de dépendance, notamment aux multinationales états-uniennes. Ce qui est intéressant, bon, je vais pas détailler, mais c'est l'explosion créative, artistique de ces années-là, la Nueva Canción Chilena, Víctor Jara, au niveau de la musique, de l'expression artistique, du théâtre, il y a vraiment une ébullition dans les usines, notamment, qui est extrêmement forte, intéressante. Il y a une ébullition à gauche également, et les débats avec le mouvement de la gauche révolutionnaire sont souvent tendus. Il faut rappeler que l'option qui était celle des miristes, c'était initialement celle de la guerre populaire prolongée. C'était une option stratégique guévariste, notamment à partir de 67-69. Avant, il y a des débats, y compris au sein du MIR, mais à partir de ces années-là, c'est Miguel Enriquez et ses camarades qui prennent la direction de l'organisation et qui annoncent, et on peut dire qu'en partie là-dessus, ils avaient raison, que l'oligarchie chilienne jamais n'acceptera de se faire déposséder, même si c'est fait de manière démocratique et par la voie légale. Et que là où, le moment où elle se sentira dépossédée, elle sera prête à écraser, y compris par la violence, y compris en détruisant son propre État d'une certaine manière, ou en tout cas en le sauvant du mouvement révolutionnaire par la violence armée. Donc là, il y a un vrai débat qui est finalement pas tranché, enfin qui a été tranché, mais par les forces armées, le 11 septembre 73, pardon, celui du débat stratégique. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure. C'est un débat stratégique qui est complexe, qui pose plein de questions sur jusqu'où avancer avec un gouvernement populaire qui a une perspective de réforme radicale et parfois révolutionnaire, la question de la réforme agraire par exemple. Comment s'appuyer sur les mobilisations populaires, les formes de pouvoir populaire, comme on les appelait à l'époque, poder popular, et quelles sont les brèches qui peuvent être mises dans ces institutions qui, in fine, restent quand même largement dans les mains des dominants, mais pas que les institutions. Le système médiatique, par exemple, on sait à quel point El Mercurio, qui est le Figaro chilien, était financé par la CIA, a fait un travail de propagande permanente pour déstabiliser le gouvernement et le processus révolutionnaire. La question de la justice, qui était très largement hostile, notamment la Cour des comptes, qui a mis des bâtons dans les roues en permanence face à toutes les nationalisations, la Contraloría, etc., etc. Ne pas oublier non plus, depuis la France, parfois on le fait, et c'est une erreur, la force d'un secteur de l'Église qui prend la voie de la théologie de la libération, du christianisme et des chrétiens pour le socialisme, qui accompagne cette radicalisation politique et qui même parfois déborde la gauche sur sa gauche. On a des mouvements comme Cristianos por el Socialismo qui vraiment sont très radicaux et pensent que, évidemment, le capitalisme, c'est l'antithèse de la fraternité chrétienne et donc il faut détruire le capitalisme et aller le plus loin possible dans cette perspective-là. Et donc là aussi, c'est assez intéressant de resituer ce contexte.
On a trouvé Victor sur le bord du chemin, plus de vie dans le corps et massacré les mains. Veilleur, passeur d'espoir, l'écrivait des chansons, touchait à la guitare, Jara était son nom. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili, plein des passants qui courent dans la ville ébahie. Les brutes militaires des casernes jaillies, les avions, la poussière et les bombes et les cris. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. C'est au stade d'abord qu'ils ont été parqués, les promis à la mort, les déjà sacrifiés. Le chanteur, c'est bien toi, demande un officier. Victor le fixe droit dans les yeux sans ciller. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. 30 ans, le temps qui court n'apporte pas l'oubli. Venu de Washington à peine déguisé, l'ordre implacable tonne, tuer la liberté. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Chante le bonheur et la fraternité. Celui-là fait-il peur aux barbares casqués? À coups de crosse, on a fracassé ses poignets. Joue maintenant, rara, avant de l'achever. C'était un 11e jour de septembre à Santiago. On l'a dans les faubourgs jeté dans un ruisseau. Et personne depuis n'a demandé pardon. Pour les années de nuit, pour tous les compagnons. Non, personne là-bas n'a montré de remords. L'honneur, on connaît pas dans les états-majors. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front.
Cette chanson pour Victor Jara est celle de Michel Buller. Elle est l'une des nombreuses chansons créées par des artistes du monde entier en hommage à Victor Jara.
Nous avons entendu aussi la première partie de l'intervention de l'historien Franck Godichet, spécialiste du Chili, au colloque de l'Institut La Boétie. Et nous écoutons maintenant la deuxième partie de son exposé.
Alors moi, ce que j'ai travaillé, et je peux vous en parler pendant à peu près deux semaines sans m'arrêter, mais je vais pas le faire ici, c'est avant tout les formes d'auto-organisation ouvrière dans le mouvement syndical des grandes villes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a d'un côté et peu à peu cette proposition d'une voie donc non armée, pacifique au socialisme, qui avance sur un ensemble de sujets, mais qui est très rapidement en but à des problèmes institutionnels, justement. Le fait que Allende soit minoritaire au Parlement, qu'il ait une opposition de plus en plus radicalisée, la droite évidemment, mais aussi la démocratie chrétienne, qui peu à peu se déplace sur la droite et va faire un bloc contre Allende. Donc à chaque fois qu'il veut faire passer des lois, eh ben on dit non, voire on met en accusation les ministres, accusation constitutionnelle, on essaie de créer toutes sortes de blocages. Et de l'autre, il y a la force du mouvement populaire. Ce qui est intéressant quand même de regarder à cette époque, c'est que l'élection d'Allende ne signifie pas une canalisation des luttes absolue. Au contraire, si on voit les statistiques des grèves, elles explosent à partir de 71-72. C'est-à-dire que une partie du mouvement ouvrier voit l'arrivée d'Allende comme une opportunité pour radicaliser ses mobilisations, occuper les usines par exemple, au bout d'un moment créer des cordes industrielles, et finalement de manière de plus en plus autonome de la direction même de l'unité populaire. Avec des tensions, évidemment, une partie des partis de la gauche au pouvoir, au gouvernement, dit vous allez trop loin, vous créez des problèmes à la coalition, voire il y a des tensions par exemple très fortes entre le Parti communiste, qui est plutôt l'aile gradualiste, modérée de la coalition, et ces formes d'auto-organisation à la base, qui sont vécues comme une déstabilisation du programme de transition graduelle au socialisme. Je rentre pas dans les détails, on pourra peut-être le faire si on a quelques minutes tout à l'heure. Il y a des moments un peu emblématiques. On voit la ministre du Travail, Mireia Baltra, ministre communiste, qui arrive dans les cordes industrielles et qui va gifler des dirigeants syndicaux en disant « vous êtes des gauchistes, vous créez du tort au gouvernement ». Et la réponse des syndicalistes, c'est de dire, comme disait tout à l'heure Martine, « non ». Il faut continuer à avancer, à occuper les usines, à nationaliser, sinon ce sont ceux d'en face qui vont nous faire la peau. Donc là, il y a un débat qu'il faut pas esquiver, en fait, qui est au cœur de l'unité populaire, qui est en tension. C'est pas d'un côté le mouvement populaire, de l'autre côté le gouvernement. Il y a toujours eu une dialectique un peu tendue, puisque la majeure partie de ces militants étaient souvent des militants socialistes, par exemple, du MIR, voire communistes, mais qui, à partir de leur conscience de classe, voulaient aller beaucoup plus loin que ce que pouvait ou ce que proposait la perspective d'Allende de transition légale. L'autre point noir, mais ça, si vous avez vu la bataille du Chili de Patricio Guzmán, et là je fais un moment de promotion pour l'excellent, l'indispensable, le magnifique documentaire de Patricio Guzmán, La bataille du Chili, en 3 tomes, et vous avez l'occasion de le voir gratuitement en ce moment sur Arte TV a racheté les droits pour 2 semaines, donc vous pouvez pouvoir l'ensemble de la bataille du Chili, et on comprend vraiment ce que j'essaie de vous expliquer ici. C'est la question du marché noir. La bourgeoisie va comprendre qu'elle ne peut pas faire chuter Allende directement par la voie légale, et donc elle va essayer par le boycott économique, par le marché noir, un marché noir qui est organisé, et vous connaissez peut-être octobre 72, où en gros la bourgeoisie se met à l'école de Lénine, comme disait Armand Matlard, et donc elle bloque l'économie, la grève des camionneurs financée par la CIA, mais aussi la question de la distribution du commerce qui fait très mal, parce qu'on n'a plus accès au lait, aux aliments, etc. Et donc là aussi, il y a d'autres formes d'auto-organisation autour de la question de l'alimentation, de la distribution. Et là aussi, Allende est quand même un peu les mains liées, puisqu'il ne contrôle que 30% de la distribution. La grande majeure partie de la distribution est dans les mains du secteur privé, et il n'y aura aucune avancée de ce point de vue-là. C'est une autre difficulté. Après octobre 72, la grande épreuve de force qu'est octobre 72, il y a donc un surgissement par en bas de formes de pouvoir populaire, notamment les cordons industriels, qui réclament au gouvernement d'aller beaucoup plus loin, et en même temps considère encore que Allende est leur président, le camarade président. Sur la dernière année, vous avez peut-être ces images, il y a des ouvriers qui défilent, ils ont une pancarte, et ils disent « Este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno ». Ce gouvernement est une merde, mais c'est mon gouvernement. Avec l'idée, c'est le gouvernement des travailleurs, mais il fait pas ce qu'il faut, on n'est pas d'accord avec lui, mais il faut continuer à radicaliser le processus. Il n'y a pas de rupture, en fait, disons, type soviète dans la stratégie qui a été celle de la Russie d'un côté et gouvernement de l'autre. On reste dans cette dialectique agitée, ces temps brisés, comme dirait Ben Saïd, du processus révolutionnaire. Il y a un autre élément dans les minutes qui me restent, c'est qu'il faut surtout pas sous-estimer ceux d'en face. Il faut bien se rappeler que pendant l'unité populaire, la droite, la démocratie chrétienne et même à un moment donné des groupes fascistes comme Patrie et Liberté ont été capables ensemble de mettre des millions de personnes dans la rue. La rue n'était pas qu'à la gauche, n'était pas qu'au mouvement populaire. Il y a par exemple les fameuses mobilisations des femmes des beaux quartiers, mais aussi des femmes populaires avec leurs casseroles qui se mobilisent avec des centaines de milliers de femmes en 72 contre la pénurie, contre la politique économique du gouvernement. Il y a la grande grève des mineurs del Teniente, une grève ouvrière sur les salaires qui va faire perdre des millions de dollars au gouvernement qui est dirigé par la démocratie chrétienne. Donc la classe ouvrière n'est pas unanimement derrière la gauche non plus. Il y a une lutte de classe, et il y a un grand marxiste britannique qui disait on est passé de la lutte de classe à la guerre de classe. Et dans cette guerre de classe, eh bien, tout n'est pas blanc et noir, évidemment. Il y a le mouvement de masse et aussi celui de l'opposition, voire d'une opposition fascisante de plus en plus à partir de 73. Une autre leçon, c'est celle de la bataille idéologique. Les médias, la bataille médiatique a été perdue progressivement par l'unité populaire et la gauche. Les médias ont été vraiment une arme de destruction massive qui a préparé le coup d'État de manière systématique, travaillé sur le fond, à coup de millions de dollars des États-Unis, mais par une pratique interne, celle des Chiliens et des Chiliennes qui étaient opposés à Allende. D'autre part, cette période pose la question des forces armées, la question de qu'est-ce qu'on fait de l'État, finalement, dans un moment de transition au socialisme. Quelle est la place de l'armée? Le grand pari d'Allende, c'était que les forces armées allaient respecter le suffrage universel, qu'elles avaient une tradition démocratique au Chili, il y avait une sorte, l'idée d'un exceptionnalisme chilien en Amérique latine, et qu'in fine, même s'il y avait des éléments réactionnaires, ils seraient isolés par la grande tradition constitutionnaliste des forces armées. On sait que ça n'a pas été le cas. C'est d'ailleurs un des points de défaite stratégique de la gauche, qui sera d'ailleurs ensuite, pendant la dictature, travaillé par le Parti communiste et d'autres forces. Et on voit que dès 72, il y a des entreprises qui sont prises d'assaut par les militaires avec l'application de la loi contre les armes, sur le contrôle des armes. On voit que les marins de Valparaíso qui dénoncent la conspiration sont torturés l'année 73, alors qu'Allende est encore au pouvoir, hein, et que le gouvernement ne peut pas intervenir. Il promet qu'il y aura un jugement, mais en fait, à la tête de l'amirauté, personne n'est viré. On voit surtout que les militaires sont intégrés par la gauche au gouvernement. C'est le fameux cabinet de novembre 72 jusqu'à mars 73, et de nouveau en août 73. Le pari d'Allende, c'était en formant un cabinet civico-militaire, essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et là, évidemment, c'est un moment aussi de clash au sein des gauches. Une partie de la gauche dit, les militaires au gouvernement, c'est pas une garantie pour le peuple, c'est même une garantie pour la répression qui vient. Et un autre secteur annonce que non, ça permet de essayer de calmer les eaux et de finir le mandat, voire d'annoncer une assemblée constituante. C'était le projet d'Allende le 11 septembre 73. C'est pour ça qu'il y a eu le coup d'État le 11 septembre et pas le 18, comme l'avaient prévu les forces armées, parce qu'ils voulaient éviter qu'Allende appelle à référendum et à assemblée constituante. Il me reste une minute. Cette photo, elle est dramatique, en fait, si on la voit aujourd'hui. On est le 4 septembre 73. Il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, peut-être 1 million de personnes à Santiago, qui fêtent la troisième année de l'élection de Salvador Allende. Pendant une journée entière, il va y avoir un défilé sous les balcons de la Moneda, et ensuite le 8 septembre de nouveau, qui va réclamer, soutenir le gouvernement, mais en même temps commence à réclamer des armes, par exemple, certains secteurs, la gauche du PS, le MIR, ou à chanter « El pueblo armado no será vencido », « Le peuple armé ne sera pas vaincu ». Et évidemment, l'engagement d'Allende, c'était celui de la voie légale et pacifique au socialisme, et il l'a réaffirmé jusqu'au dernier moment. Et c'est un peu ça le drame, en fait, du 11 septembre, c'est qu'on a une gauche chilienne qui est désarmée au plan politico-militaire, mais aussi sur le plan stratégique. Et en fait, comme le dit Thomas Mulian, c'est une double impasse, parce que l'aliendisme a été défait, effectivement, mais aussi l'option stratégique était celle du MIR. Le MIR n'a pas eu la capacité de présenter une voie alternative, finalement, à la voie pacifique qui était en crise. Et donc, à partir de ce moment-là, on le sait, c'est la répression, 16 années de dictature. Et pour conclure, en fait, ça pose la question, on va finir plutôt avec celle-là qui est plus sympa, qui revient sur les formes d'auto-organisation de pouvoir populaire. Ce qui est posé en termes stratégiques, si on le lit à partir d'aujourd'hui, c'est voilà la question des ruptures avec le capitalisme, avec l'impérialisme, et en même temps la place de l'État, la place d'un gouvernement, du Parlement dans ce cycle de mobilisation, jusqu'où on peut aller, à quel moment il faut avoir des ruptures, quelle est la place des formes d'auto-organisation dans ce processus de double pouvoir, et la question épineuse des forces armées et de la violence politique. À l'époque, on avait une armée de conscrits, donc c'était le peuple en uniforme, comme le disait le MIR. Aujourd'hui, en France, par exemple, on a une armée professionnelle. Donc c'est d'autres problèmes qui sont posés, mais je pense que de ne pas les poser, ça serait mettre sous le tapis des questions qui sont très épineuses et qui sont nécessaires pour penser l'émancipation au XXIe siècle.
Est-ce que d'autres militaires seront bientôt arrêtés pour les crimes qu'ils ont commis pendant la dictature de Pinochet ? L'avocat Claude Caste, présent au colloque de l'Institut de la Boétie, apporte quelques précisions sur les procédures lancées depuis la France pour essayer de faire condamner Pinochet lorsqu'il a fait un voyage en Europe. Nous savons aujourd'hui que le dictateur, en se faisant passer pour très malade, a réussi à échapper à toute condamnation, qu'il est retourné au Chili en pleine forme et qu'il est mort quelques années plus tard dans son lit. Alors pour terminer notre émission, je vais vous faire écouter l'intervention de l'avocat Claude Caste, puis une dernière chanson de Victor Jara.
Il y a eu, en 98, vous vous souvenez, Pinochet est arrivé, effectivement, d'abord avait demandé le visa pour venir se faire soigner à Paris. Bon, bien évidemment, le Quai d'Orsay a refusé. Bon, c'était sous Giscard d'Estaing, on ne voulait pas de problème. Donc, il n'est pas venu à Paris. Il est allé en Angleterre, à Londres, où il s'est fait soigner. Et ensuite, rapidement, nous avons déposé une plainte en 1978, donc, à Paris, devant le voyage d'instruction. Une procédure a été ouverte avec le juge Leloir. Cette procédure était extrêmement longue. Le gouvernement français n'a rien fait pour faciliter effectivement la procédure. Plusieurs juges d'instruction sont succédés. Finalement, il y a eu un renvoi devant la cour d'assises de Paris. L'audience a été tout à fait exemplaire, aussi manifestation de solidarité également. Et il y a eu une condamnation donc de ces quatre personnes. Les familles de ces personnes qui avaient été assassinées, donc disparues. Le motif, très rapidement, c'est parce que donc il y avait eu torture, disparition, crime de torture, disparition et assassinat de ces personnes. Et qu'ils étaient franco-chiliens, ce qui permettait à la justice française d'être compétente. Ce procès a été exemplaire. On se souviendra toujours que à la fin du procès, il y a une réunion à la mairie du 3e arrondissement de Paris, et même les gardes du palais de justice étaient là tellement qu'ils avaient été intéressés par la procédure. Je précise aussi que ce procès était vertueux parce que ensuite, il y a eu des procédures qui se sont enfin exercées au Chili, car la justice chilienne est restée longtemps bloquée. Et le dernier exemple, c'est justement la procédure qui a été diligentée et qui a permis le 28 août dernier, enfin, de voir condamner donc les assassins de Victor Jara.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. E igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
La bande à collègues et puis moi, on est content d'être cosmonaute. Au début, on avait les foies, mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur, mais d'Armentière à Baïkonour, j'ai tenté de jolier les heures, sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme, le plaisir que j'ai à divertir. Et salut ma maman, ta femme.
En ce temps-là, nos fleurs vendaient leurs viandes aux chiens, et nous habitions tous de sordides tripots, avec des aiguillages pour nos petits matins, quand le beau macadam nous traitait de salaud.
traiter de salauds. Nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles et gerbions nos enzymes en nous gueulant moteur. Mais entre deux voyages, entre deux verres d'alcool, nous n'avions pas le temps de décompter nos heures. Compter nos heures. Danseurs d'un monde à l'agonie, en même temps que fantômes conscients d'être mort-nés. Nous étions fossoyeurs d'un monde à l'agonie. Dans les jobs interdits, dans les musiques blêmes, dans les sombres parfums, dans les dédales obscurs où plane la folie. Où plane la folie. Et nous avions des gueules à briser les miroirs, à ne montrer nos yeux que dans le contre-jour. Mais entre deux délires, entre deux idées noires, nous étions les plus beaux, nous vivions à rebours. Nous vivions à rebours. Nous étions les danseurs d'un monde à l'agonie, en même temps que fantômes conscients d'être mort-nés. Nous étions fossoyeurs d'un monde à l'agonie. Citoyens, nous nous étions mutants, nous étions androgynes. Aujourd'hui la tempête a lynché mes copains, et je suis le dernier à rater mon suicide. À rater mon suicide. Mais je veux vivre encore plus ivre de cramer. Je veux ronger le mal jusque dans ses recoins. J'ai traîné mes 20 siècles d'inutilité. Je n'ai plus rien à perdre, mais j'en veux pour ma fin. J'en veux ma fin.
Son pays, c'est la vie, c'est petit mais joli. Peut-être a-t-elle vieilli, mais elle ne m'a rien dit. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a 30 ans, le temps passe. Et pourtant, malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large, et les ongles du temps qui griffent son visage, et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Elle me connaît par cœur, mais elle m'aime quand même. Elle m'a soigné des heures et des nuits par centaines. Elle a fait tant d'efforts, qu'elle s'inquiète encore quand il fait froid dehors. Elle donne, elle pardonne, elle ne juge jamais, non. Plus rien ne l'étonne, elle a tellement pleuré. Mais malgré ses blessures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand le jour se lève, elle repart au galop. Dans son petit manteau beige, elle a l'air d'un moineau. Mais quand elle me regarde, elle a les yeux qui brillent. La plus belle, c'est sa fille. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal à la vie, c'est fou, je la revois comme quand on était petit. Depuis longtemps, c'est sûr, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Moi, j'ai jamais su faire pour savoir à la fois rester femme, être mère, essayer d'être moi. Depuis que j'ai grandi, je cherche la sortie et je n'ai rien compris. Mais quand je la regarde avec tout son courage et ses mains toujours froides et son petit visage, aujourd'hui, j'en suis sûre, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Et quand je vais la voir, elle est comme une poupée. Sauf que dans mon regard, elle n'a jamais changé. Mais s'il n'est pas trop tard, aujourd'hui je lui dis tout simplement merci. J'aimerais tant savoir revenir en arrière et surtout la revoir dans les yeux de mon père. Alors, quand c'est trop dur, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère.
Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 sur la bande FM ou sur Internet. On va lancer l'émission Jazz Lib, émission qui a été enregistrée. Voilà, ben je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Qui ne sont guère réjouissantes, donc un peu de musique et de la bonne musique. Voilà, on est parti.
Bonsoir chers auditeurs, c'est Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est l'émission de Jazz Lib enregistrée. Non qu'inutile d'appeler, mais en revanche, vous pouvez vous connecter sur le site de la radio, radiolibertaire.org, radio-libertaire.org. Vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook sur laquelle je mets l'ensemble des informations de l'émission plus d'autres choses. Vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr pour avoir des informations sur la playlist ou ce que vous voulez concernant l'émission ou la musique. Et vous avez la possibilité de réécouter en podcast l'ensemble des émissions pendant 12 mois après la diffusion. Voilà, sur 89.4 FM Paris et par internet, vous pouvez écouter également en direct. Donc ce soir, une émission qui est consacrée aux nouveautés. Alors, comme la dernière fois, je n'ai pas pu vous passer en entier le titre de Vladimir Torres, de son album Brujos, qui veut dire sorcier, qui était sorti le 2 juin, donc je vous vais le passer en entier. À noter qu'il y a un concert à la bascule le 20 octobre à Guyon-Durne, dans le 25, c'est-à-dire dans le Doubs. Et le 27 avril 24 à Conflans-Sainte-Honorine, Jazz au Confluent. Voilà, donc le titre que je n'ai pas pu vous passer s'appelle Extrañando. Et alors, je ne sais pas si c'est un télescopage de l'actualité assez triste, il y avait un thème dans cet album qui s'appelle Sweet Gaza 2. Je ne ferai pas de commentaires sur ce point. Voilà, bonne écoute.